animateur engagé dans le 68 français, qui est toujours d'ailleurs un animateur engagé d'autres luttes sociales et politiques, et membre de la LCR en France. Bon, pour les ouvrages de Daniel, j'en ai ramassé quelques-uns. Le plus ancien, c'est celui qui avait écrit avec Henri Weber sur mai 68, une répétition générale qui date de 68, puis une série de livres dont les deux récents qui ont traité de questions théoriques et de l'œuvre de Marx, Marx l'intempestif et la discordance des temps et faits sur les crises, les classes et l'histoire, un certain nombre d'autres que vous pouvez éventuellement regarder, plus un livre de mémoire plus personnel, une lente impatience, la revue Contre-temps qui l'anime, donc il vous dira quelques mots, mais là-dessus je lui passe la parole. Donc aujourd'hui il va nous parler de 68, les événements de 68, mais dans ce qu'ils ont à nous dire aussi aujourd'hui par rapport au développement du mouvement altermondialiste.
Bon, je vous dis tout de suite, je n'aime pas parler de 68, parce que tous les 10 ans, ça va faire le 40e anniversaire, bon, c'est un peu lourd à porter et un peu déprimant. Alors bon, ceci dit, en deux mots, plutôt pour introduire, parce qu'il nous intéresse davantage, c'est quand même le présent, pour marquer la distance et les différences, d'une part de contexte, évidemment, on nous a beaucoup posé la question l'an dernier à propos... Il faut parler combien de temps en fait?
45 minutes, une heure, et
Non, parce que je l'ai... Oui, non, mais c'est
45
pas...
minutes.
Il faut me contrôler.
Ouais.
On nous a posé beaucoup la question l'an dernier à propos du mouvement, et il y a eu, je crois, un texte dans... Des textes ont été publiés ici. Il se trouve qu'en avril, j'étais au Chili. Bon, on demandait, est-ce que c'est 68 qui recommence ? Bon, à l'évidence, il y avait quelques similitudes, le mouvement étudiant, le côté anti-autoritaire, les formes d'insolence, etc. Mais la grande différence, c'est qu'en 68, il y avait en France moins de 200 000 chômeurs, et il y en a aujourd'hui, selon le type de chiffres utilisés, autour de 3 millions, sans parler des précaires, etc. Autrement dit, une inquiétude sociale d'une toute autre nature. On était au terme des 30 ans d'expansion dite 30 glorieuses, et avec une sorte d'insouciance quant à l'avenir pour les étudiants, et l'accent sur des revendications culturelles contre des archaïsmes, des conservatismes sociaux, en matière de sexualité, en matière de rapport pédagogique dans les universités, etc. Mais, donc, une différence de contexte majeure. Deuxièmement, sinon on ne parlerait pas de 68 comme d'un symbole, parce que ce n'est pas une affaire franco-française, c'est un thème international, et d'ailleurs j'espère, ce qui se prépare pour l'an prochain, 40e anniversaire, il y a une encyclopédie en route en France, il y a une grande série pour la télé, etc. Ils ont au moins le mérite d'aborder 68 du point de vue international et pas du point de vue hexagonal franco-français. Alors ça c'est très important, je vais en redire deux mots. Mais ceci dit, 68, si ça a marqué autant l'imaginaire, disons, et au-delà des frontières hexagonales, c'est pas tellement, pas principalement par le mouvement jeune qui lui a été une caractéristique de 68 dans le monde, du Pakistan au Mexique avec la révolte étudiante qui s'est traduite à la veille des Jeux Olympiques de Mexico en 68, mais également en Pologne, en Allemagne, il y avait eu les Provos en Hollande, donc il y avait un mouvement de la jeunesse qui correspondait à la première vague de massification des études supérieures, on était loin des effectifs actuels, mais... c'était le début de massification avec ce que ça implique en même temps de promotion sociale, d'ouverture très relative, mais des universités, de l'enseignement supérieur à des enfants issus de milieux plus modestes, voire ouvriers, mais en très petite quantité. Donc, il y avait ça, mais avec des correspondances dans beaucoup de pays, à peu près sur tous les continents, mais on n'en parlerait pas encore si ça ne s'était pas combiné avec la grève générale. Une grève générale charnière, dont certains ont voulu l'interpréter comme la dernière des grandes grèves générales du vieux mouvement ouvrier, en gros la dernière grève d'un cycle qui va du 19e siècle à 68 précisément, mais dont certaines caractéristiques peut-être préfigurent plutôt des mouvements du 21e siècle, c'est-à-dire une grève d'une société qui était salariée déjà à 75-80% et dans lequel tous les secteurs à peu près de la société, pas seulement les secteurs industriels ou les services publics, étaient mobilisés jusqu'aux joueurs de football. À l'époque, on n'achetait pas les clubs à la bourse. Les joueurs de football se mettaient en autogestion contre l'entraîneur ou comme bon, ce qui est sûrement un symptôme. En 36, on disait les garçons coiffeurs. Bon, là, donc c'était vraiment une sorte de révolte civique et sociale généralisée qui préfigure certains traits des mouvements sociaux actuels. Enfin, l'autre caractéristique importante, c'était la place finalement dans les coordonnées du contexte et le poids du contexte international sur 68. Le mai français, évidemment, est un temps fort à cause de la grève générale, mais on a eu un mouvement polonais important pendant l'hiver. Il y avait eu la manifestation internationale. À l'époque, on se déplaçait moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les forums sociaux, bon, il y a une espèce comme ça de nomadisme protestataire. Bon, à l'époque, c'était exceptionnel, hein, pour aller à Berlin en bus en plein hiver. Mais il y a eu des premières manifs internationales, celle de Berlin, qui nous a beaucoup inspiré, qui avait eu lieu fin janvier, début février de 68. Mais surtout, le printemps, dit le printemps de Prague pour la Tchécoslovaquie, un mouvement anti-bureaucratique, et l'offensive du Tet au Vietnam, dans lequel d'ailleurs le mouvement de libération nationale vietnamien avait failli l'emporter militairement, en tout cas avait mené une offensive qui a beaucoup ébranlé l'intervention américaine et puis ses alliés fantoches du Vietnam du Sud, là encore au printemps 68. Donc un contexte dans lequel on avait le sentiment que pouvait converger des luttes du mouvement ouvrier, au sens le plus traditionnel du terme, sous ces formes de grève en France, des luttes anti-impérialistes, celles du Vietnam venant après la révolution cubaine ou la lutte de libération algérienne, et des mouvements anti-bureaucratiques, principalement en Pologne et en Hongrie, donc l'impression que quelque chose se mettait en mouvement et se mettait en marche, et dont les figures symboliques, ça c'est aussi important à l'époque, les figures d'identification. Si on prend la trajectoire du mouvement noir américain, le mouvement émergent du Black Power et des Black Panthers et la trajectoire personnelle de quelqu'un comme Malcolm X, passant d'un communautarisme religieux à travers ses voyages internationaux à une évolution vers un internationalisme politique directement, se référant au Che, à Amilcar Cabral pour ce qui était la résistance de Guinée-Bissau, donc les figures, même Ben Bella pour la guerre d'Algérie, les figures de l'émancipation ou de la décolonisation du tiers-monde étaient des figures, y compris exprimées de manière admirable à mon avis par l'œuvre de Frantz Fanon, que bien qu'il soit d'un écrivain francophone, antillais, aujourd'hui est moins connu en France qu'il ne l'est dans le monde anglo-saxon, mais c'était une dynamique universaliste des mouvements de libération et non pas une dynamique dominante, religieuse, communautaire ou ethnicisante comme on a aujourd'hui. Donc les différences là-dessus sont extrêmement marquées. Je ne pense pas qu'il faille aller plus loin, souligner ces aspects-là, une montée de la jeunesse, un contexte international dans lequel on a une convergence de lutte sur le plan mondial, des formes d'activité et à travers ça, disons, une poussée qu'on peut qualifier tout de même allant vers l'internationalisme dans un horizon d'émancipation universelle. Alors, bon, évidemment, en faisant le saut pour voir quelles résonances ou quels échos on peut établir aujourd'hui par rapport au mouvement altermondialiste, c'est un saut assez considérable dans le temps. Si on situe du point de vue des dates, il n'y a pas une date unique, mais disons approximativement, on peut dire le mouvement altermondialiste a émergé entre le 1er janvier 1994 et l'insurrection zapatiste et les manifestations de Seattle de 1999. Donc, dans les dernières années, disons, de la décade 90. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, ça nous prendrait trop de temps, mais disons que c'est l'enregistrement ou l'aboutissement, peut-être plus précisément, de défaites majeures pour les mouvements d'émancipation. Non que la chute du mur de Berlin soit l'expression de cette défaite ou l'implosion-explosion de l'Union soviétique. Je dirais que c'était là plutôt la deuxième mort d'un cadavre. Pour nous, la révolution russe était morte depuis les années 30 au moins. Finalement, aussi bien l'effondrement ou le renversement du mur de Berlin que l'explosion de l'Union soviétique peut avoir, à terme, pas immédiatement, un potentiel libérateur, remettre en route et une réflexion et des mouvements délivrés de l'emprise bureaucratique qui a tenu beaucoup de choses captives pendant le XXe siècle. Mais il n'en demeure pas moins que le bilan du siècle a été une défaite des espoirs d'émancipation tels qu'ils existaient à l'aurore du XXe siècle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film sur Rosa Luxembourg, il y a quelques années, c'est un film où on voyait, il y avait une scène du 1er janvier 1900, où se réunissaient dans une espèce de surboom, enfin surboom, je ne peux pas le mot approprié, les dignitaires de la social-démocratie allemande, Kautsky, Rosa, etc., mais avec l'idée, la conviction, après on peut discuter de leurs politiques respectives, mais que le XXe siècle serait le siècle de l'émancipation sociale et de la paix dans le monde. Bon, un siècle plus tard, les dégâts sont considérables. Le siècle des extrêmes a représenté une défaite majeure. Alors, je le souligne sans m'apesantir davantage, d'abord pour ne pas déprimer l'assistance, mais non, parce que ça pèse et ça pèsera durablement sur nos épaules. C'est pas quelque chose qui va être effacé ou surmonté en quelques luttes et quelques années de lutte. C'est réellement, c'est toute une histoire à reconstruire. Si on est attaché à changer le monde, et je crois que ça c'est la constante en revanche, c'est que l'urgence à changer le monde est plus importante aujourd'hui qu'elle était en 68. C'est-à-dire le degré de crise sociale, de crise écologique, y compris de crise morale, on peut dire, dans la maîtrise des nouvelles technologies, notamment sur le plan biologique, de la bioéthique, etc., on a une crise qui menace et la survie et le caractère humain de l'humanité. Je n'ai pas le temps de le développer, on peut y revenir dans le débat si vous le voulez, mais cette crise-là, pour moi, je ne suis pas moins convaincu que j'étais en 68, ça jouait les anciens combattants, qu'on a été battu, on a été vaincu bien des fois, mais je ne crois pas qu'on s'est trompé de combat. Les raisons pour lesquelles on dénonçait, on s'opposait, on se révoltait contre le système à l'époque, sont plutôt malheureusement confirmées et renforcées aujourd'hui par les misères du monde telles qu'on le voit. Bon, alors, ceci dit, il faut mesurer la difficulté, c'est-à-dire que, comme dirait le camarade Badiou, le XXe siècle a eu lieu et il pèse lourd. Et il pèse lourd, et encore une fois, c'est une pente à remonter. Je ne vais pas faire du Raffarin, la voie est droite, mais la pente est dure. Mais il faut quand même remonter la pente. Donc, le mouvement altermondialiste a surgi, mais dans ce contexte-là. C'est-à-dire, après pratiquement, pas un quart de siècle, mais disons, quasi 20 années de défaites cumulées face à la contre-offensive libérale initiée par les années Thatcher et Reagan en Angleterre aux États-Unis, par les politiques d'ajustement structurel imposées en Amérique latine, en Afrique ou dans le tiers-monde en général. Donc, clairement, après un moment de défaite, il y a là visiblement différentes générations présentes. Bon, il y en a plusieurs, j'imagine, en tout cas c'est mon cas, qui ont vécu les années 80 comme des années horribles. Ça a été réellement les plus pénibles. Les années 90, on peut dire presque paradoxalement, le fond de l'air a repris un peu de couleur. C'est pas l'embrasement, on s'en fout, mais bon, ça s'est recoloré un peu. Sur le plan intellectuel, disons que même on n'aurait pas imaginé que le discours libéral était tellement triomphant et triomphaliste en 90-91 pendant le mandat de George Bush père, hein, que, par exemple, on imaginait mal que dans l'université française, la date de 93 est symbolique. 1993, c'est l'apparition de La misère du monde de Bourdieu, coordonnée par Bourdieu, et c'est les spectres de Marx de Derrida qui relégitiment le fait que Marx est quelqu'un d'intéressant et fréquentable. C'est venu relativement vite. Bon. Et dans les années 90, donc, on a une remobilisation qui n'est pas synchronisée selon les pays, mais qui commence à se manifester en Amérique latine, donc au Mexique, avec les grèves de l'hiver 95 en France, pour la France ça a été déterminant, avec les marches de chômeurs en 97 à Amsterdam, pendant le sommet d'Amsterdam, et une remobilisation inégale mais réelle de différents mouvements sociaux sur différents continents, avec l'apparition de nouveaux syndicalistes et syndicats en Corée du Sud, avec les mouvements paysans comme les Sans Terre au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, etc. Donc une remobilisation importante qui marque quelque chose qui a été... Je suis prêt à... J'essaie de peindre lucidement le tableau, donc de dire, bon, il ne faut pas se gargariser et s'abandonner aux illusions lyriques ou aux tentations d'illusions lyriques, mais il faut aussi mesurer le chemin parcouru. Et par rapport au climat qui pouvait régner, j'ai parlé de triomphalisme libéral, George Bush, père, encore une fois, promettant à l'humanité une ère de paix, de prospérité, etc., en 91, bon, le bilan, 15 ans après, est facile à faire. C'est plutôt un enfoncement dans la catastrophe sociale, une véritable guerre sociale qui continue aujourd'hui, de démantèlement des acquis sociaux, des systèmes de retraite, de protection sociale, du code du travail maintenant, qui va être un des thèmes de la campagne présidentielle en France, etc. Donc cette offensive n'est pas terminée, continue et provoque, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais pour ce qui est de la France, les chiffres, bon, vous avez vu peut-être les sondages, puisqu'il y a une communauté linguistique, l'information passe la petite frontière, le fait que plus de la moitié de la population imagine pouvoir tomber dans la précarité au point de devenir SDF, c'est-à-dire sans logis, la moitié de la population. Alors, ça peut être une peur imaginaire, mais enfin, c'est quand même le sentiment de précarité, le sentiment confirmé aujourd'hui de sondages en études sociologiques, la conviction que les générations à venir auront une vie plus dure et difficile que les générations passées, ça, à l'évidence, en 68, personne n'imaginait ça. Dans la dynamique des 30 glorieuses, tout le monde imaginait toujours mieux, hein, pour l'avenir. Donc, tout ça, évidemment, pèse lourd, et en même temps, la guerre, n'en parlons pas, la promesse, puisqu'il n'y avait plus de péril rouge, entre guillemets, d'une planète pacifiée de 1991, première guerre du Golfe, à aujourd'hui, occupation de l'Irak, de l'Afghanistan, guerre en Afrique, etc., pratiquement la génération qui étudie aujourd'hui aura vécu à l'échelle planétaire 15 ans de guerre ininterrompue. Et maintenant, une déclaration formelle et officielle quasiment, au lendemain du 11 septembre par George Bush, d'une guerre illimitée dans le temps et dans l'espace, qui n'est pas une formule rhétorique, hein, qui est la réalité tout simplement. quand on déclare la guerre au terrorisme, pas une guerre d'État à État, mais une guerre contre un ennemi qui n'a ni territoire ni État, donc insaisissable, c'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin qui ne se mène plus au nom d'intérêts politiques, mais au nom du monopole de la morale, du bien contre le mal. Autrement dit, c'est une guerre sainte, une guerre de religion, de la part de l'impérialisme. Bon, avec évidemment le symétrique aussi, mais c'est cette dynamique-là qui existe. Alors, par rapport à ça, ce qui est important dans l'apparition du mouvement altermondialiste, et ça je crois qu'on l'aura, personnellement je ne l'aurais peut-être pas espéré en 90, c'est la rapidité en moins de 15 ans avec laquelle les politiques libérales, l'apologie de la compétition et de la concurrence marchande ont perdu leur crédibilité, leur légitimité. L'idée, un, ça ne marche pas, et deux, le prix du point de vue social, des conséquences, des souffrances, des misères accumulées, si on fait le tour de la planète, est considérable. En termes d'exclusion, de nouvelles pauvretés ajoutées aux anciennes, de dégradation du climat, de l'environnement, des conditions même de vie urbaine ou rurale, pour ce que je connais le mieux en Amérique latine. Donc, une perte de légitimité qui a fait que, plus vite peut-être qu'on ne pouvait l'espérer, il y a eu un réveil de ce cauchemar libéral, plus ou moins climatisé, avec, dès la fin des années 90, symbolisé par les manifestations de Seattle contre le sommet de l'Organisation mondiale du commerce, l'apparition d'un mouvement altermondialiste. Et si on regarde, alors évidemment, plus on prend de l'âge, plus la perception du temps change. Ce qui paraît de la longue durée à 20 ans, paraît un épisode éclair quand on est plus mûr. Disons, et alors évidemment, au privilège de la maturité, dire 1999 Seattle, 2001 le premier forum social de Porto Alegre mondial, le forum social de Mumbai, le forum social de Nairobi qui s'ouvre demain, et les forums sociaux qui se sont répandus sur tous les continents, y compris dans des régions, il y en a eu à Istanbul, il y en a eu à Beyrouth, etc. En 8 ans, c'est pas mal. En 8 ans, franchement, c'est pas mal, vu le point de défaite d'où on partait. Ceci dit, les victoires remportées, il y en a eu. Hein, des victoires ou des semi-victoires, on peut attribuer en partie à ce mouvement altermondialiste. Il a fallu créer des rapports de force pays par pays, mais la mise en échec de l'accord multilatéral d'investissement, de l'AMI, qui sûrement d'ailleurs a donné de la confiance à ce mouvement alter, qui a été provisoirement enterré, ça peut réapparaître un jour ou l'autre, mais qui était en fait de donner la primeur, prépondérance aux droits des entreprises, y compris sur les droits sociaux des États, dans lesquels les entreprises viendraient s'implanter. On peut considérer que, sans avoir abouti forcément à des résultats, mais que au moment du sommet de l'OMC de Cancun, le mouvement altermondialiste, en tout cas, a été une des composantes du rapport de force qu'ont utilisé, parfois d'ailleurs pour le brader, certains des pays comme le Brésil et l'Inde, dans les négociations agricoles, notamment, ou dans la façon de poser la question de la dette sur le plan international. Puis enfin, je pense que ce n'est pas mineur, même si évidemment ça n'a pas empêché la guerre, mais le mouvement altermondialiste, à partir du sommet européen de Florence en 2002, a lancé l'initiative, qui a été un succès considérable quand même, la première manifestation mondiale contre la guerre du 15 février 2003, contre l'expédition impérialiste en Irak. Donc ça a été un mouvement réel, mais qui par lui-même, en même temps, fait l'expérience, c'est un forum social. Je crois que ce n'est pas seulement un nom de baptême, c'est le signe que dans un premier temps, la remobilisation s'est faite à travers les mouvements sociaux, nouveaux ou moins nouveaux, parce qu'on baptise facilement de nouveau des choses qui parfois sont des réémergences. Le mouvement féministe a une histoire longue. Bon, il n'est pas exactement nouveau. Il y a eu des moments d'éclipse et des moments de relance. En revanche, les mouvements écologistes ou les mouvements indigénistes en Amérique latine, liés en partie à la mondialisation, à l'écrasement des cultures locales ou aux dégâts écologiques par la privatisation, les brevets, finalement la capture ou la dépossession, y compris des ressources naturelles, végétales, etc., par les trusts pharmaceutiques, tout ça a produit certains mouvements nouveaux, d'autres anciens, etc., mais il n'est pas fortuit que ce mouvement altermondialiste se soit défini comme mouvement social, ce qui, au moins en théorie, en pratique, ça a été largement contourné de fait, mais qui se tenait à distance de ce qui serait un mouvement politique. Dans les forums de Porto Alegre, il y avait en avant-première du forum, mais le Festival Orf, si vous voulez, comme à Cannes ou au Festival d'Avignon, qui était la réunion, on disait ça, des autorités locales, je crois que c'était baptisé. C'était en fait des villes, des maires, des conseils municipaux. Mais c'était clairement hors forum. Donc, disant, pour affirmer l'autonomie, ce qui est légitime, pour marquer un moment de renaissance du mouvement social, mais une mise à distance des questions politiques, relatives mais réelles. Je crois que c'était bénéfique, peut-être qu'il pourrait y avoir un malentendu, c'est que ça a permis de construire d'emblée un espace unitaire, un espace d'échange d'expériences et de reprendre confiance. Ceci dit, en l'absence de victoire significative de ces mouvements-là, la question politique, y compris sous sa forme électorale, est revenue sur le tapis, ce qui était à peu près inévitable. Enfin, aujourd'hui, si on imagine un prochain forum social au Brésil, dans lequel on aurait inévitablement Chavez, Evo Morales, le nouveau président de l'Équateur, Correa et Lula, c'est une confrontation d'orientation. Il peut y avoir des éléments de front commun diplomatique par rapport à la politique américaine sur le continent, mais fondamentalement, ce qui se fait aujourd'hui au Venezuela et le bilan de la première législature Lula sont deux orientations radicalement différentes, voire opposées. Donc, et ces questions-là ne peuvent pas être externes ou étrangères au débat, au problème que se pose, peut-être à sa manière, le mouvement altermondialiste. Et l'expérience qu'on a, c'est que deux des piliers dans le monde de ce mouvement-là, à savoir le PT au Brésil, même s'il n'était pas escalité, mais enfin, il est arrivé à plusieurs reprises que Lula faisait des discours ou inauguraux ou de clôture du forum social, mais le PT au moins par son influence dans le mouvement des sans-terres, dans le mouvement syndical brésilien, était un des piliers, une des forces dynamiques d'émergence du mouvement altermondialiste. Et pour l'Europe, si on regarde le succès du forum de Florence en 2002, ça ne fait jamais que 5 ans, que 4 ans, bientôt 5 ans, c'était autour de refondations communistes, des syndicats, etc. Or, ce qui s'est passé depuis, dans les deux cas, et on est bien loin des discours radicaux, un autre monde est possible, le monde n'est pas à vendre, le bilan de la législature Lula au Brésil, c'est d'avoir surenchéri sur les exigences du FMI pour le remboursement de la dette, et d'avoir fait en sorte, c'est un copain malheureusement qui était ministre de l'Agriculture, que la réforme agraire, le bilan est inférieur à ce qu'a été la législature de Cardoso avant, en termes de légalisation des terres occupées. Il ne suffit pas de les légaliser, il faut les viabiliser, il faut construire les routes, l'électricité, etc. Le compromis qui avait été signé en novembre 2003 n'était pas honteux. Il prévoyait l'établissement ou la légalisation de 600 000 familles, ce qui va faire dans les 3 millions de personnes de terres occupées. Ce n'est pas une révolution agraire, vu la dimension du Brésil, mais c'est une vraie réforme. Je crois que le bilan controversé aujourd'hui a été de moins de 200 000, tout simplement parce que le financement n'est pas venu. Et qu'on ne peut pas d'un côté faire du zèle dans le paiement des intérêts de la dette et financer un vrai programme de réforme agraire, ni le programme fin zéro, parce que ce qui a permis la réélection de Lula, c'est la fameuse bourse des familles, qui est une forme de solidarité, charité publique pour les familles les plus démunies. Vu l'état et les inégalités sociales au Brésil, même pouvoir donner un verre de lait quotidien à un môme, c'est considéré comme déjà appréciable, mais ce succès relatif de la Bourse des Familles est bien loin de l'ambition du plan fin zéro. Éradiquer la faim au Brésil, c'est pas uniquement distribuer des aides, c'est une politique d'emploi, c'est une réforme agraire, c'est une réforme fiscale radicale. Rien de ça a eu lieu, de sorte que le responsable de la campagne fin zéro, qui était un théologien de la libération, Frebeto, a démissionné sur la pointe des pieds par impuissance, tout simplement. Bon. Et ce qui se passe à côté de nous avec la participation de Refondation en Italie au gouvernement Prodi, après on en pense ce qu'on veut, hein, mais en tout cas est aux antipodes des discours qui étaient tenus il y a 4 ans dans les forums sociaux, au moment du grand mouvement anti-guerre, etc. Aujourd'hui, on en est au fait que, à 2 exceptions près ou 3, les élus de Refondation communiste votent l'envoi des troupes en Afghanistan, votent le budget d'austérité de Prodi, et on va voir très bientôt, quand le problème de la constitution, du traité constitutionnel européen va revenir sur le tapis, ce qui est dans l'agenda pour 2008, Prodi est un des pères de la constitution européenne. Bon. Donc, on a quand même deux cas où, finalement, le mouvement n'a pas réussi à trouver son prolongement sur le terrain politique, et où, au contraire, la politique institutionnelle, y compris les politiques qu'on peut qualifier pour aller vite de social-libérales, ont digéré la radicalité produite par le mouvement social des 10 dernières années. Ce qui fait dire, je crois qu'on est à un vrai tournant de ce mouvement-là. Hein. Si vous voulez, la phase précédente, bon, j'ai amené déjà plein de bouquins, je vais pas... Non, mais c'est pas un bouquin de moi spécialement, donc c'est pas de l'autopromotion, mais on a produit collectivement un bouquin qui s'appelle Planète altermondialiste l'an dernier, dans lequel il y a une présentation, c'est des portraits intellectuels ou théoriques de figures de l'altermondialisme, Wallerstein, Walden Bello, pour l'Asie, Aminata Traoré, les théologiens de la libération, etc. Et il y a quelqu'un qui joue un rôle influent dans le mouvement altermondialiste, qui est Boaventura da Sousa Santos, qui est portugais, qui est beaucoup plus connu en Amérique latine, que je crois qu'il est peu traduit, y compris en français. Ça, c'est le protectionnisme idéologique franco-français. Il y a aussi un problème d'économie d'édition. Hein. Le marché francophone est quand même pas le marché anglophone ou hispanophone. Mais bon, sans... Alors, le mouvement altermondialiste avait développé, disons, une étape, on peut qualifier de grand refus, et avancé quand même à vitesse assez accélérée. Parce que on est passé d'un mouvement sur la dette, contre les paradis fiscaux, etc., très vite à des mots d'ordre presque spontanés, qui résument ce que j'appelle le grand refus, ou le moment de dérésistance, le monde n'est pas à vendre, le monde n'est pas une marchandise. C'est pas des thèmes ou des mots d'ordre d'une grande banalité. Quand on sort justement de cette période du discours dominant libéral, c'est tout simplement dire que ce monde tel qu'il va, un monde de concurrence, d'égoïsme et de guerre de tous contre tous, y compris de guerre au sens premier du terme, est un monde inacceptable. Qu'il n'est pas une fatalité, et que la marchandisation généralisée, non seulement des services publics, d'éducation, de santé, etc., mais du vivant par le brevetage qui se fait de plus en plus brevé chaque année, donc de privatisation des ressources naturelles, du bien commun, y compris des organes et du corps, ouais, ça c'est pas nouveau quoi, au Brésil, hein, au Brésil vous aviez des annonces, on vend le sang, il y a des gens qui vivent de la vente de sang, qui font 3 prélèvements sanguins par semaine pour avoir un petit pécule et se nourrir. Vous avez des annonces dans les journaux, bien que ce soit illégal, de gens qui vendent un œil, hein, ou un organe pour acheter une échoppe, etc. Donc, cette idée de l'horreur d'un monde de marchandisation généralisée, c'est ça que marque le grand refus. Et c'est pas peu de choses comme prise de position de départ collective largement partagée. De la même manière, il n'était pas évident, ce mouvement est composite, qu'il obtiendrait aussi facilement un consensus quasi unanime contre la guerre en Irak. Ce n'était pas évident, c'est quand même ce qui s'est passé. Donc, ce mouvement s'est politisé au sens le plus général du terme et avancé assez vite. Maintenant, il commence à bégayer. Ce qui ne veut pas dire que c'est fini, ni qu'il a épuisé sa force propulsive, comme aurait dit quelqu'un jadis. Au contraire, du point de vue géographique, le mouvement continue à s'étendre. Symboliquement, ce ne sera peut-être pas un grand succès, mais le fait qu'il y ait eu lieu un forum à Bamako et aujourd'hui un forum mondial à Nairobi, que le forum de Mumbai était un succès, etc. En gros, il y a une véritable mondialisation, globalisation des résistants. Et ce mouvement-là n'a pas encore une fois épuisé toutes ses potentialités et ses ressources. Mais maintenant, on ne peut pas être non plus dans la simple répétition, et on sent bien, ne serait-ce que, alors là, c'est le plus flagrant, c'est évidemment en Amérique latine, qu'il y a une reconnexion des questions sociales et des questions politiques. Et qu'on ne peut pas dire la politique c'est salissant, la politique c'est compromettant, on n'y arrivera pas. C'est finalement ce que théorise encore d'ailleurs différents discours qui ont peu pénétré ici, j'imagine les gens qui connaissent, mais ça n'a pas été non plus traduit en français, bon, qui est peut-être symbolisé, mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont développé ces thématiques-là. Le bouquin de John Holloway, qui est prof d'économie à l'université de Puebla au Mexique, et qui a écrit un livre dont le titre est un titre programme, hein, « Changer le monde sans prendre le pouvoir est dangereux donc on ne veut pas le prendre, ceux qui ont tenté de le prendre au XXe siècle, ça n'a pas très bien marché, ça a plutôt mal tourné, donc mieux vaut ne pas essayer ou ne plus essayer, enfin, ceux qui n'ont pas essayé n'ont pas non plus changé le monde jusqu'à présent. » Donc, en revanche, c'est un discours qui pouvait avoir un certain écho dans les forums au début des années 2000, mais aujourd'hui, bon, on se rend bien compte, ou en Bolivie ou au Venezuela, que le pouvoir politique est peut-être en danger, mais c'est aussi un levier dont on ne peut pas se dispenser pour la réappropriation collective ou nationale du gaz ou du pétrole bolivien ou du pétrole vénézuélien, que c'est là le moyen de redistribuer des richesses, etc., et de combattre des inégalités sociales, de créer des services publics. Le problème, effectivement, c'est qu'il peut y avoir des dangers du pouvoir, mais c'est en même temps un outil dont on ne peut pas se passer. Tout le problème aujourd'hui, c'est dans les rapports de force mondiaux, continentaux, en Amérique latine réellement existants, comment utiliser ce point d'appui pour créer une dynamique réelle de transformation sociale sur le continent. Comment faire naître une alternative au projet états-unien aujourd'hui paralysé du grand marché des Amériques, c'est-à-dire de l'extension du marché commun ou du marché unique nord-américain entre Canada, États-Unis et Mexique, l'élargir à l'Amérique latine. Alors ce projet-là, qui est depuis sur la table depuis des années, a été tenu à l'échec au dernier sommet des Amériques à Mar del Plata au printemps 2006, pour le moment il est en suspens. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Les États-Unis contournent le problème aujourd'hui en signant des accords bilatéraux avec les pays pris un par un. Ils ont signé avec le Pérou, ils ont signé avec la Colombie, évidemment. Bon. Ils font ça systématiquement. C'est pareil, c'est ce qu'ils font aussi sur la non-ratification du Tribunal pénal international. Ils ne ratifient pas et ils signent des accords d'immunité de fait des citoyens américains bilatéraux avec une cinquantaine de pays qui ont par ailleurs ratifié le traité international sur la création du tribunal pénal international. Et ici, les accords d'immunité bilatéraux, pourquoi ? Ils le disent d'ailleurs assez cyniquement. Vu les désordres dans le monde, vu que les États-Unis sont le gendarme du monde, vu que c'est nous qui allons intervenir un peu partout, si on acceptait d'être traduit devant le tribunal international, bon, à côté, Milosevic et les autres, c'est de la bibine. Hein, on aurait Kissinger pour le Chili, et puis sans parler aujourd'hui des crimes de guerre, d'Abu Ghraib, etc., etc. Donc, on ne rate pas là-dedans, et on s'immunise par des accords de protection signés de pays à pays. Ils le font sur les problèmes économiques en Amérique latine, bien évidemment. Alors, ça, je crois que si on veut trouver un deuxième souffle, pour un souvenir 68 ans, au mouvement altermondialiste, il ne s'agit pas de faire exploser ce mouvement-là qui est précieux à partir de bagarres politiques, etc. Je pense qu'il a un caractère unitaire qui est à préserver, Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a un camarade économiste en France qui a publié un bouquin relativement important dont le titre m'échappe, Thomas Coutreau, qui collabore à Politis, etc. Et je crois qu'il y a pas mal d'illusions, donc il faut là aussi regarder sobrement, qui, je résume fidèlement, je n'ai pas la citation sous la main, mais qui voit le mouvement altermondialiste au singulier avec une majuscule comme la relève, le nouveau sujet social qui prend la relève d'un mouvement ouvrier vieilli et à bout de souffle. Non, franchement non. Vous avez dans le mouvement altermondialiste, et c'est bien que ce soit comme ça, des projets réformistes d'une mondialisation mieux régulée à visage humain, vous avez des projets développementistes keynésiens, vous avez des courants libertaires, vous avez des courants d'écologie radicale, vous avez un éventail dont un des points communs, c'est de refuser les conséquences ou les excès pour certains des politiques libérales, mais ce n'est pas un projet alternatif. Quand j'ai parlé de grand refus, c'est non. Alors, commencer par dire non est toujours important, y compris au traité constitutionnel européen, mais ça ne définit pas non plus une politique pour l'avenir. C'est, disons, un cran d'arrêt à l'offensive libérale. Mais après, on a la voie Lula, ou la voie Chavez, ou d'autres demain, etc. Il n'y a pas un modèle, hein, parce que même le Venezuela, il y a une dynamique très positive. Maintenant, comment ça va tourner? La Bolivie, là aussi, quand on dit changer le monde sans prendre le pouvoir, ce n'est pas nous qui décidons. En moins de 2 ans, avec l'arrivée au pouvoir d'Humas et de Morales en Bolivie, on est au bord de la guerre civile. Et pas, bon, tout simplement parce que ben, y a des bourgeois, il y a des intérêts impérialistes, etc. Il y a, y compris pour la France, Total, qui est dans le coup pour le pétrole, etc. Et ces gens-là se défendent. Et la forme, ça, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers jours les péripéties, c'est tout simplement les gouverneurs régionaux du Béni, de Cochabamba, etc., qui, au nom de la décentralisation, veulent faire sécession. C'est-à-dire que faire la moitié de la Bolivie se sépare de la Bolivie pour garder les richesses, notamment pétrolières et énergétiques. Ça peut ne pas déboucher là, mais la guerre est déclarée. Elle aura lieu. Comme le coup d'État au Chili était prévisible. Je ne dis pas quand, parce que c'est compliqué. Sortant du cycle des dictatures militaires en Amérique latine, étant embourbé en Irak, il est peu probable que les États-Unis se lancent dans une aventure face à un mouvement social ascendant, quand on voit l'effet de contagion en Équateur, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y aura une expérience tranquille, pédagogique, du socialisme bolivarien au Venezuela et en Bolivie, sans affrontement. Ce n'est pas qu'on le souhaite, ce n'est pas l'idée sanguinaire, etc. Mais il faut regarder les choses en face. Ces affaires-là vont pas. C'est pas une force tranquille, comme dirait notre cher et défunt président Mitterrand, qui avance à pas de tortue. Donc le problème, c'est que le mouvement alter est une composante du rapport de force. Son caractère unitaire, avec ses différences et ses contradictions, est précieux, à une condition. C'est que le consensus ne soit pas une manière d'étouffer le débat. Finalement, pour que vive ce mouvement, il faut que les débats qui se posent, il faut que la discussion sur l'ensemble, par exemple en Amérique latine, des expériences latino-américaines, ou d'un forum du monde arabe, que la question palestinienne, que la question de la guerre du Liban, que la question du rapport à la religion soit posée et débattue. Il faut oser aborder les questions qui fâchent. Le consensus à minima ne sauvera pas le mouvement. En revanche, un apprentissage du débat ouvert, et là, on est effectivement au seuil, à un moment charnière. Je vous parlais de Boaventura da Sousa Santos, pourquoi? Parce qu'il a donné une expression de ce moment que j'appelle, pas de façon péjorative, le moment utopique du mouvement altermondialiste, la dernière décennie. Utopique dans quel sens? Pour moi, il y a une analogie, comme toute analogie discutable, mais disons à ce qui s'est passé dans le mouvement ouvrier européen après les années 1830 et la Restauration. Une fermentation d'idées, une remise en route ou une émergence d'un mouvement dont la première expression, c'est de chercher des expériences locales, ce qu'on pourrait faire autrement, etc., sans articuler ça à une stratégie politique. Ça a été les mouvements communistes de Cabé, l'Icari, les coopératives ou les mutuelles de crédit de Proudhon, tout ça, et on retrouve ça avec les débats sur le microcrédit, la décroissance, l'économie solidaire, l'économie participaliste, etc. Tous ces thèmes qui existent dans le mouvement altermondialiste, qui tâtonnent. Bon, c'est bien, ça apporte quelque chose, mais la difficulté, c'est d'articuler cette expérimentation sociale et cette mobilisation à une question que pour le moment on essaie de refouler mais qui nous rattrapera, comment ça finit par s'exprimer sur le plan politique et comment on peut transformer les rapports de force politique. Bon, sinon, toutes ces expériences sont digérées ou dénaturées très très vite. Et on est un peu à la limite de ça, c'est-à-dire que, pour le résumer, je dirais, Marx polémiquait avec ses contemporains dans les années 1830-1840, dans les textes de jeunesse, 1840, en 1830 il était en culotte courte, mais les textes de la Nouvelle Gazette Rhénane de 1944 sur la question juive et sur la philosophie du droit de Hegel, c'est une polémique contre ce qu'il appelle l'illusion politique, c'est-à-dire l'illusion selon laquelle la conquête des droits politiques, si important soit-il, là il y a une caricature qui traîne sur Marx, enfin, pourtant il s'est battu comme un chien pour contre la censure et pour les libertés de la presse, donc il dit c'est des libertés de réunion, de presse, etc., très importantes. Mais ce n'est pas le dernier mot de l'émancipation sociale. On se heurte à autre chose, ce qu'elle ne rentre pas, qui est le problème de la propriété, notamment. Bon. Mais aujourd'hui, on a eu une illusion un peu symétrique, que le mouvement social par lui-même était suffisant ou autosuffisant pour résoudre les problèmes. Et à l'évidence, non, ce n'est pas en se tenant à distance de la politique qui s'allie qu'on les résout. Parce que finalement, ça revient à une division du travail où on continue à déléguer la politique à ceux qui en font profession. On ne cherche pas à disputer. On se résout ou résigne à un rôle de lobby, de groupe de pression, qui marche plus ou moins sur les organisations et les institutions politiques traditionnelles. Donc, je crois que c'est à ce tournant-là qu'est aujourd'hui le mouvement altermondialiste. C'est à ces débats-là qu'il est confronté. Il part qu'il a en tant que tel, je ne sais pas, peut-être vous ne le savez pas, mais je trouve très raisonnable, certains le critiquent pour ça, que les réunions du mouvement altermondialiste ne votent pas. Et à juste titre, qu'est-ce que serait la démocratie et comment combiner les votes d'une association très respectable de défense des tortues géantes avec la CGIL italienne ou avec la CUT ou le mouvement des santères au Brésil. Non, bon, c'est impossible. Quelle est la légitimité démocratique d'un vote? Donc, c'est un forum, le mot n'est pas choisi au hasard, c'est un lieu de rencontre et d'échange, qui est un produit, ou un premier produit, de la mondialisation elle-même. Et on s'interroge pourquoi et comment des mouvements aussi disparates que les mouvements culturels indigènes du Pérou ou d'Équateur, que les marches des femmes, que telle ou telle organisation de défense de l'espéranto. C'est vrai, bon, je pense que l'espéranto est une connerie, mais bon, ça fait rien, ça part de bons sentiments. Il y a les défenseurs de l'espéranto, des gros syndicats de salariés, des mouvements écologistes. Comment tout ça se retrouve à Porto Alegre, à Nairobi ou à Mumbai? Ce qui les pousse à se réunir, c'est le capital lui-même. Le grand unificateur, c'est que ces mouvements découvrent qu'ils ont au moins certains intérêts communs face à ce que le monde est en train de devenir. Et ce n'est pas par, par philanthropie universelle que les syndicats ruraux paysans du Brésil collaborent quotidiennement, y compris par email, avec les mouvements paysans d'Inde ou du Bangladesh. C'est tout simplement qu'ils sont rencontrer les mêmes adversaires, en l'occurrence les grands semenciers, Monsanto, Novartis, etc. Bon. Donc la mondialisation, mais à une moindre échelle, c'est ce qui s'est passé avec ce que j'appelle la mondialisation victorienne, il y a beaucoup d'analogies, hein. Les années 1850-60, les grandes expos universelles de Londres, de Paris, etc., la première internationale est née de ça. Elle est née de ça. Hein, et la transformation à l'époque des communications avec la navigation à vapeur, le développement impétueux du chemin de fer, l'installation des grandes lignes télégraphiques, etc., équivaut à Internet et au vol supersonique aujourd'hui. La spéculation financière a été tout aussi effrénée avec les scandales Panama, les grandes faillites financières de compagnies immobilières, etc. Il y a beaucoup d'analogies, hein, y compris la vague de colonisation. Aujourd'hui, on a une vague de recolonisation du monde. Donc, il y a beaucoup d'analogies, et à l'époque, ça fait surgir un mouvement socialiste ouvrier international. Donc là, de la même manière, c'est pas une volonté, c'est pas né dans la tête simplement par génial, mais c'est que la logique du monde pousse à ça. Alors, le problème n'est pas, encore une fois, de forcer ce mouvement à changer de nature. Je pense que s'il cherchait à voter, il volerait un éclat tout simplement. Mais en revanche, que différents projets, propositions, visions politiques s'y confrontent réellement et qu'on trouve les modalités pour le faire. Parce qu'il y a, disons, je recenserai parce qu'on ne peut pas sinon ce que j'ai. Oui, ça va aller. Il y a quand même des grands problèmes que on est sommé pratiquement de commencer à aborder. La politique, depuis Aristote, depuis qu'Aristote l'a dit, pas depuis Aristote, il n'a pas inventé la politique, il a essayé de la penser. Il n'est plus limité, mais bon, c'est une affaire de temps et d'espace. Il est très précis, le temps de la politique, c'est le temps des mandats, déjà. Alors à l'époque, ils étaient courts, c'était renouvelable tous les ans, ce qui n'était pas mal par ailleurs. Bon, et l'espace de la politique, c'était la cité. Et la cité, il le dit très explicitement, c'est l'espace qui permet aux cultivateurs ruraux de se rendre sur la place publique. Donc le temps de marche qui permet de s'assembler, tout simplement. Bon. Alors, pour nous, l'espace de la politique est, depuis le XVIIe siècle, grosso modo, l'espace national. C'est l'espace où se définit la citoyenneté. L'espace n'est pas un donné naturel. Les frontières, quand on parle aujourd'hui de l'entrée de la Turquie à l'Europe, ça va amener des frontières. Voilà. Pourquoi le détroit du Bosphore serait une frontière davantage que les Pyrénées? Voilà. Les frontières naturelles, c'est une invention. Ça n'existe pas. Bon. Les frontières sont historiques et politiques, pas naturelles. Bon. Et par rapport à ça, donc c'est un ensemble, une conception du territoire, des frontières, d'une correspondance entre une population, un peuple, un territoire, etc. Et finalement, si on regardait tout le vocabulaire politique tel qu'il s'est constitué entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, notamment chez Hobbes, avec la définition du citoyen, avec l'idée de l'État moderne, etc., etc., toutes ces catégories aujourd'hui sont secouées par la dynamique de la mondialisation. Non pas caduques. Je pense justement un des dangers des positions comme celle de Negri, c'est d'extrapoler et de penser que tout ça n'existe plus ou est résiduel. Non, non, les États nationaux existent, ils ont moins de pouvoir, mais ils en ont. Le droit international n'est pas un droit cosmopolite. 90% ou plus du droit international est un droit de traité, donc un droit en traitat, et il faut ratifier le tribunal pénal international, etc., au niveau des États. Donc, mais ce que j'appelle le paradigme politique de la modernité n'est pas détruit, mais considérablement secoué. Or, toutes les stratégies de transformation socialiste se sont inscrites dans ce cadre-là, généralement en retournant même les concepts. C'est-à-dire citoyenneté, oui, mais pas seulement politique, sociale. Souveraineté, oui, mais souveraineté populaire et démocratique, et pas seulement souveraineté de l'État. L'espace national, si on regarde toutes les révolutions du XXe siècle, a été l'espace de lutte et de confrontation. Alors, ça, ce n'est pas fini, on voit bien. Venezuela, Bolivie, pour ce que j'ai cité. Mais on a affaire à une imbrication nouvelle des espaces. Rien qu'à l'échelle, je sais que vous n'êtes pas dans l'Union européenne, mais à l'échelle de l'Union européenne, on voit clairement qu'on peut défendre des droits sociaux ou une conception de la laïcité scolaire dans l'espace national, parce que c'est là que sont inscrits les rapports de force traduits en termes juridiques. Mais en revanche, si on veut répondre au problème du monde tel qu'il va, on est obligé de donner déjà des réponses au niveau européen, l'harmonisation des droits sociaux européens, une politique écologique au niveau européen, au moins européen, quand ce n'est pas directement mondial. Alors, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que l'encastrement de différents niveaux ou de différents échelons de l'échelle spatiale pose des problèmes politiques considérables. Et puis en Amérique latine, on le voit. C'est pas le Venezuela se libère de la tutelle impérialiste, etc., et des compagnies pétrolières. Immédiatement, c'est quelle alternative en Amérique latine, à l'échelle au moins du continent, au projet américain du grand marché libre des Amériques. Alors, pour le moment, c'est une formule. C'est l'Amérique bolivarienne. Ce n'est pas qu'une formule, hein, la formule des Vénézuéliens, parce que l'Amérique bolivarienne a plus de réalité pour les latino-américains que l'Europe pour nous. L'Europe, bon, enfin, vu mon nom et mes origines, ma capitale de cœur, élective, est beaucoup plus Séville ou Gibraltar, enfin la charnière de la Méditerranée. Bon, j'ai rien contre la Suède et la Norvège, mais enfin bon. Non, mais c'est ni mon histoire ni ma culture. Bon. Il n'y a pas une naturalité européenne. L'unité linguistique historique de l'Amérique latine, relativement, est plus forte. Donc, le discours sur un projet bolivarien est quelque chose qui peut être entendu et qui a une certaine réalité. En tout cas, bon, je ne dis pas d'ailleurs que l'Europe ne se construira pas. Hein, mais ça sera, non pas un peuple européen, mais un peuple de peuples. Puisqu'on parle de mouvement des mouvements à propos de l'altermondialisme, ça sera plutôt ça. Donc ça, c'est un premier grand problème. Comment penser des politiques aujourd'hui qui, d'emblée, s'articulent au niveau national, continental, ou d'ensembles régionaux, et mondial. Deuxième gros problème, j'en énoncerai que trois, c'est le problème dit des acteurs sociaux. Alors, c'est pour ça que je citais tout à l'heure Thomas Coutreau, disant, le mouvement altermondialiste comme s'il était homogène, unifié, et le nouveau sujet des luttes d'émancipation. Non, on a une construction de différents sujets, mouvements, etc., qui permet d'ailleurs d'en finir avec le mythe du prolétariat majuscule ou du grand prolétaire rouge, comme si, pareil, une classe sociale était une espèce de personnage mythique. Mais ni le prolétariat, ni le peuple majuscule, ni le mouvement altermondialiste ne sont cette espèce de grand sujet, hein, de transposition à l'échelle collective des subjectivités individuelles, de la conscience, etc. Mais le problème est justement comment, de ce disparate, de cette diversité, faire une force commune. Il y a des raisons à ça, encore une fois. Ce n'est pas uniquement une convergence morale. Bon, il faut, et la question qui est derrière ça, est-ce que le capital mondialisé aujourd'hui est un système et un despote impersonnel tel qu'il pousse, justement, il donne des raisons réelles, y compris matérielles, etc., à ces mouvements, par-delà leur diversité, à se trouver un point commun. Je crois que c'est ce que démontre, justement, le mouvement altermondialiste. Et c'est un point de départ important. Maintenant, ce n'est pas non plus un simple puzzle ou une mosaïque. Là-dedans, il y a des forces centripètes. Et par exemple, je pense qu'on considère souvent obsolète aujourd'hui ou désuet la notion de classe ou de lutte de classe. Je pense que, évidemment, les classes, encore faut-il qu'il y ait un rapport à la réalité. En général, on s'interroge pour savoir s'il existe encore une classe ouvrière ou un prolétariat. Quand vous prenez en France le débat sur l'impôt sur la fortune, on se demande beaucoup moins s'il existe une bourgeoisie, parce que la réponse serait vite donnée. Je suis peut-être un peu sommaire et primaire, mais je me dis que s'il existe une bourgeoisie, il doit bien exister quelque chose en face. Bon, appelons-le comme on veut, mais la lutte, ça existe. Bon, et la preuve, ça n'est... ce qu'on appelle les parachutes dorés, les stock options, etc. puis même c'est idiot comme débat, parce que bon, il suffit de voir quand les gens sont obligés de se battre pour maintenir le droit à la pause pipi ou dans une entreprise, que c'est même pas la grande lutte lyrique, c'est la défense de petits droits acquis, hein, au jour le jour et quotidien. Donc ça, mais il y a une importance qui va au-delà, qui est une position, bon, j'espère partager, je ne veux pas être le seul, mais c'est que, évidemment, la façon dont on se représente et on cherche à organiser les antagonismes, les rapports de conflit, construisent aussi une vision du monde. Et que si on exprime, y compris dans les mots, hein, y compris dans les mots, si vous prenez ce qu'on dit aussi bien Walter Benjamin que Hannah Arendt sur le nazisme, Benjamin disait l'Allemagne nazie, c'est le pays où on ne pouvait plus appeler le prolétariat par son nom. Et Hannah Arendt disait le nazisme, c'est la décomposition des classes en masse. C'est justement transformer les collectifs, les solidarités en poussière d'humanité. Et là où disparaît ou s'efface la notion de classe, de lutte de collectifs sociaux, à laquelle peuvent s'agréger sur un pied d'égalité différentes formes et différents mouvements, mais là où ça s'affaisse, en échange, on a les luttes de religion, on a les luttes raciales, on a les luttes ethniques. La différence, c'est que les notions de classe permettent de construire des solidarités par-delà les frontières et les nations, par-delà les chapelles et les clochers, parce qu'il y a toujours de l'autre côté de la frontière ou de l'autre côté des croyances religieuses un autre soi-même. C'est donc, pour moi, ça reste un vecteur d'universalité, ce qui n'a rien à voir avec le fait que ça abolit les différences, les singularités individuelles, collectives, etc. Et le problème de construire une réponse hégémonique à l'offensive libérale, c'est ça. C'est comment, de cette masse aussi différente de mouvements de résistance aujourd'hui, peut naître une alternative réellement, un projet autour de quel thème, au cauchemar libéral dont je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a un troisième et dernier problème qui ne me paraît pas simple du tout, qui est la question de la violence dans aujourd'hui. Bon, il se trouve que j'ai été élevé mécréant, donc on ne m'a jamais dit de tendre la joue droite ou la joue gauche, je ne sais pas par laquelle ça commence. Donc je ne suis pas non violent, en tout cas pas par principe. Je ne suis pas non plus sanguinaire ou fanatique, etc. Mais en tout cas, bon, l'ennemi est méchant, on se défend. Mais le problème aujourd'hui, quand même, est sérieusement posé, c'est que toutes les tentatives de transformation, parce que c'est des conflits, sont identifiées principalement. Quand on dit aujourd'hui, mais être révolutionnaire, c'est quoi? C'est la différence entre un réformiste raisonnable et un révolutionnaire ébouriffé, c'est le goût de la violence. Non, non. C'est pas le problème, mais en revanche, il y a aujourd'hui un monde où la violence est extrêmement asymétrique. Il n'y a qu'à prendre les guerres actuelles. On compte les morts américains en Irak à l'unité, et on compte les morts irakiennes des deux guerres du Golfe à la louche, quand on les compte. Autrement dit, il y a l'idée d'un conflit à armes égales, symbolique et réelle, bon, est loin derrière. On est dans des formes d'hyperviolence, où la violence des opprimés tend à imiter la violence des dominants. Mike Davis projette un livre autour du thème des attentats à la voiture piégée. D'ailleurs, il dit que c'est l'aviation du pauvre. Mais effectivement, c'est l'équivalent, on peut dire, ça peut se discuter, mais le bombardement des hauteurs où on bombarde des populations réduites à l'état de miniatures ou d'insectes, où on ne voit pas, où on ne ressent plus, y compris ce qui faisait la caractéristique et un élément d'auto-limitation, d'auto-régulation des guerres, c'est que la guerre est une affaire sérieuse parce que le risque est réciproque, même s'il est inégal. Là, les fameuses guerres asymétriques du Pentagone sont des guerres où le risque est unilatéral. Donc y a là un problème, y compris sur la différence, c'était le résistant ou le partisan, et ce qu'est, même si le terme est trop élastique et mêle des choses bien différentes, ce qu'est le justement le kamikaze aujourd'hui des attentats de Manhattan ou d'autres. Enfin, pour conclure, dire seulement deux enfin pour conclure, parce qu'il faut passer au débat, souligner deux points qui devraient justement être au centre de toute façon des questions, des préoccupations, y compris des initiatives et des campagnes que devrait mener toute ou partie du mouvement altermondialiste. Premièrement, je crois qu'un des points clés qui suinte par tous les problèmes sociaux aujourd'hui, c'est le problème de la privatisation du monde. Et quand je dis privatisation du monde, on pense tout de suite les entreprises qui ont été privatisées, les banques privatisées, le crédit privatisé, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a privatisation du droit. De plus en plus, vous le voyez dans toutes les séries américaines à la télé, les cabinets juridiques, etc., qui achètent des causes, c'est des transactions de droit privé, de contrat, et non pas de loi commune. Privatisation de la gestion de la monnaie, la Banque Centrale Européenne, non contrôlée par des pouvoirs publics et élus. La privatisation de la violence. Un quart des effectifs de l'intervention en Irak sont déjà des entreprises mercenaires. Et c'est vrai, même j'ai eu hier quand même, dans mon cours en fac pour un incident quelconque, trois vigiles en uniforme qui font irruption sans même demander l'autorisation. Ça, c'était là, en 68, pour le coup, ce n'était pas imaginable. À l'époque, l'arrivée d'un képi dans une enceinte universitaire provoquait une émeute. Bon, là, bon, ils rentrent pour un oui, pour un non, mais c'est des compagnies privées de sécurité. Bon. Et je crois qu'en France, il y a autant des compagnies privées de sécurité diverses sont aussi nombreuses, y compris en port d'armes, que les polices publiques, déjà aujourd'hui. Donc, et c'est la privatisation du vivant par le brevetage, etc. Donc, face à ce mouvement-là, je crois que le problème central, mais qui était à l'origine de tous les mouvements sociaux, quelles que soient leurs nuances, socialistes, libertaires, communistes, etc., du XIXe siècle, c'était la remise en cause de la propriété, de la privatisation du monde, déjà. Je viens de travailler à une édition de... Je n'avais pas lu depuis longtemps des textes de Marx sur le vol de bois. Je ne vais pas faire le détour pour conclure. Mais c'est exactement ça, la question. Or, aujourd'hui, il y a non seulement sur la défense des services publics et leur redéfinition, mais tout ce qui est bien commun de l'humanité, tout ce qui est droit fondamental à l'existence. L'affaire en France récente sur le droit au logement, le droit opposable au logement est du pain béni. Ce que veut dire, le logement est un droit au même titre que l'éducation et la santé. C'est une victoire. Hein. Bon, très bien. Mais opposable à quoi? Alors, si les pouvoirs publics n'arrivent pas à vous donner un logement, on peut les mettre en procès. Mais c'est aussi opposable, c'est peu apparu dans le débat, enfin en tout cas on peut lui donner cette interprétation-là, à la propriété privée. Ça peut justifier les réquisitions. Le droit opposable au logement, c'est pas uniquement à l'État, mais au logement inoccupé, aux immeubles vacants, etc. Donc, un empiètement. Là, d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que des gens réactionnaires comme Christine Boutin, je ne sais pas si sa réputation a franchi la frontière, bon, elle est contre le Pax, elle est contre l'homosexualité, elle est contre l'avortement, enfin, elle est papale, hein, si vous voulez, pour le dire en un mot, mais en chrétienne catho par ailleurs, elle, on l'a interpellée à la télé là-dessus, mais le droit au logement, ça remet en cause le droit de propriété, elle dit oui. Elle dit oui, c'est un catholicisme compassionnel, mais elle dit oui, s'il le faut, on ne peut pas laisser des gens dehors, point. Et si ça lève des propriétaires, ça, tant pis. Ce que des gens de gauche n'osent pas dire. Bon. Alors, leur problème, Nicolas Hulot, très bien, alerte écologique, on ne peut que s'en féliciter. Mais la charte en 10 points, il faut changer les rapports ville-campagne. Excellent, c'était d'ailleurs un des points des 10 points du manifeste communiste. Bon. C'est pas exactement nouveau, évidemment, c'est plus urgent encore aujourd'hui. Mais comment on peut changer les rapports ville-campagne sans poser le problème de la propriété du sol, de la spéculation immobilière et de la propriété foncière? Pourquoi les villes, aujourd'hui moins peuplées qu'il y a 20 ans, continuent à s'étendre? pourquoi les logements dans Paris sont inaccessibles, y compris à des travailleurs. Pourquoi il y a des travailleurs sans domicile fixe, et pas seulement des chômeurs, etc., etc., ou des exclus. C'est un problème de propriété. On peut construire le logement comme on veut, etc. C'est un problème de propriété. Quand vous dites, alors on dit en France, pour ceux qui ont suivi, il y a l'obligation de construire dans chaque municipalité 20% de logements sociaux. Neuilly, Sarkozy fait moins de 1,5%. Les municipalités communistes ou socialistes, ou même UDF d'ailleurs, de la banlieue à Drancy, font 20% voire plus. Mais à Neuilly, ils disent, ah ben, on le ferait bien, mais il n'y a pas de terrain accessible. Ben oui, il faut les prendre. Il faut les prendre. Ou il y a une loi et on l'applique, il faut s'en donner les moyens. Et on ne résoudra pas le problème du logement sans s'attaquer au problème de la propriété immobilière. Donc ça, je crois qu'il y a X manières de le décliner, y compris sur la propriété intellectuelle. Là, on est dans le délire complet. On va privatiser la séquence génique. On peut privatiser un logiciel. Bon, demain, on va privatiser le théorème de Fermat ou la géométrie d'Euclide. Pourquoi pas, après tout. Et puis le langage. On invente un mot et on le fait breveter. La bravitude, elle devrait déposer ce volet. La logique est une logique de cauchemar, on peut le dire, il y a de quoi se marrer, mais en fait, c'est quand même très inquiétant. Donc ça, je crois que c'est un moyen de construire quand même un projet si on pousse la logique, la déclinaison à fond. Enfin, le dernier point qu'on a trop tendance à banaliser là, c'est que la privatisation du monde aboutit à un dépérissement démocratique. C'est assez irritant d'entendre les journalistes dire le discrédit politique, la forme partie, etc. Mais pourquoi ça dépérit? Peut-être la corruption de tel ou tel, etc., etc. Mais fondamentalement, parce que si on vide l'espace public de sa substance, s'il n'y a plus enjeu là-dedans, si les gouvernants élus vous disent on ne peut rien faire contre le licenciement, on ne peut rien faire contre les délocalisations, on ne peut rien faire contre... à quoi sert la politique? C'est aussi con que ça. Et parallèlement à la perte de substance démocratique, on est dans l'état d'exception sécuritaire permanent. L'état de guerre, c'est pas seulement, si vous voulez, l'état de guerre tel que Bush l'a déclaré dans ses discours que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est le reflet interne de ça. Je prends deux exemples, et vraiment les derniers. Le vocabulaire de Sarkozy traitant les jeunes de banlieue de racailles, c'est exactement la paraphrase du discours de Bush sur les États voyous. C'est la criminalisation du social ou de l'ennemi. Au-delà de la criminalisation, puisque c'est une guerre du bien, de la civilisation contre le mal et la barbarie, c'est la mise de l'adversaire hors l'humanité. Et après, que ce soit la légalisation quasi de la torture, les conditions de détention hors droit national ou international à Guantanamo, ou les traitements d'Abu Ghraib, c'est pas des bavures. Quand on a mis en branle cette logique-là, d'être le bras armé de la justice divine à l'échelle mondiale, on est réellement dans une croisade. Et on a le pendant intérieur de ça. J'ai un ancien étudiant, maintenant il est grand, il a 37 ans, italien Paolo Persichetti, qui est en prison pour 17 ans, sur dénonciation d'un repenti pour avoir participé à... ce qu'il en est, à l'exécution d'un général dans les années, début des années 80. Il a accompli la moitié de sa peine, 8 ans et demi. Quand on a accompli la moitié de la peine, c'est pas un droit, on peut déposer une demande d'un régime assoupli avec des sorties, du travail, etc. Il l'a accompli, ça lui a été refusé en juin, à nouveau en décembre. Vous verrez, je vais finir sur un coup de pub, le prochain numéro de Contre-temps, qui est sous presse, qui sera sur les médias, mais il y a un article sur l'affaire Persichetti. Les attendus du juge d'application des peines pour lui refuser ça, qui refuse, mais sont hallucinants. On n'est plus dans le pénal, on est dans le moral ou dans le religieux. L'évaluation, c'est pas qu'il ait purgé la moitié de sa peine, c'est même pas qu'il ait tiré dans plusieurs livres le bilan des années de plomb en Italie sans les relier, en disant bon, c'était faux politiquement, mais c'est qu'il n'est pas réconcilié avec la société telle qu'elle est. Il ne fait pas amende honorable, mais c'est le principe de l'abjuration des procès religieux. Hein? Autrement dit, cette moralisation qui prend le pas sur le droit devient quelque chose de très inquiétant. C'est là un discours de contrôle, de normalité sociale. Bon, à la limite, si demain on dit « Ah, mais vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution, je m'y plie parce que je ne peux pas faire autrement, j'ai le droit de ne pas être d'accord et de vouloir la changer. Bon. » Là, on est y compris dans la criminalisation de des arrière-pensées. C'est exactement ça, les textes. Vous les verrez, on a publié, enfin vous les verrez. Mais on a publié le recto verso d'attendu des juges de Viterbe. C'est hallucinant. C'est un procès religieux. Bon, alors voilà, à peu près, à mon avis, on est loin de 68. Il reste quelque chose de l'esprit, un petit souffle, un filet de vie, mais surtout, bon, maintenant, on a à construire les 68 du 21e siècle, il n'y a pas de mode d'emploi, mais en tout cas, il y a un chantier de travail qui n'est pas forcément militant, ou militant politique, mouvement associatif, mouvement sociaux, mais qui est aussi un devoir universitaire, parce que, prenons, je pense, dans les cours de droit, dans les cours d'économie, dans les cours d'histoire, c'est là aussi, il y a une résistance, disons, à organiser.
Merci. On va donc peut-être ouvrir le débat sur les questions que peut susciter l'exposé, qui a surtout montré les problèmes actuels tels que peut se le poser un peu plus tard, même si tu n'aimes pas du point de vue générationnel. Alors il y en a un certain nombre peut-être qui doivent partir, ils peuvent profiter de l'interruption. Mais je propose que prennent les questions telles qu'elles vous...
Je veux bien répondre sur 68. Ça me colle un peu, donc... mais bon, de toute façon, l'an prochain, il faudra faire. On n'y coupera pas.
Bon, peut-être pour lancer la discussion, il y a un élément, disons, qui a fait repenser à 68 dans cette dernière période et qui est une conséquence, à mon avis, du mouvement, d'une assez longue durée du mouvement altermondialiste, c'est les mouvements massifs de la jeunesse dans trois pays, au moins, la Grèce, le Chili et la France autour du CPE, la Grèce autour d'une réforme brutale de l'enseignement supérieur, le Chili sur la question de la privatisation de l'école qui n'est pas remise en cause par la présidente socialiste actuelle, donc la privatisation qui a été le produit de la dictature. Il y a eu des très gros mouvements sociaux de la jeunesse qui peuvent faire penser par certains aspects, mais c'est assez différent, au mouvement de 68. Alors, est-ce qu'il y a dans ces trois mouvements quelque chose qui représenterait une capacité des mouvements sociaux à investir en termes d'action sur le terrain social et politique des questions qui ont été soulevées par le mouvement altermondialiste? Est-ce que ce n'est pas un débouché aussi du mouvement altermondialiste? Quelles analogies de ce point de vue-là, puisque ça... Je l'ai très mis en termes générationnels, il s'agit d'une nouvelle génération dans ces trois pays qui ont porté ces mouvements. Disons, est-ce que là, il y a un débouché au-delà des forums sociaux en termes d'action sociale large, d'unité, de revendication qui pourrait faire penser à 68?
Moi, d'une certaine manière, enfin, il se trouve que j'étais au Chili par les hasards des mouvements universitaires un mois avant. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris parce que les gens s'intéressaient beaucoup, enfin les gens, les étudiants, j'étais dans une fac qui est une fac privée, qui a la réputation d'être la fac privée de gauche, mais enfin, fac privée de gauche, où les droits d'inscription sont de 4000 euros par an, quand même. Oui, oui, non, non. Et qui est dans la logique, parce que du coup, on cherche les étudiants solvables, etc., etc. Vous avez, j'étais halluciné, les stands de banque à l'entrée de la fac, qui négocient les crédits à 30 ans et les taux d'intérêt, bon, pour les prêts, ce qui fait que, c'est hallucinant, ce qui fait que les étudiants d'un pays où la précarité est généralisée ne peuvent pas faire de projet de vie ou professionnel à plus de 2-3 ans, mais sont déjà endettés pour 25 ou 30 ans. Il y a de quoi rendre les gens un peu dingues. Bon, c'était la rentrée, puisqu'avril là-bas c'est la rentrée, on ne pouvait pas prévoir. Et effectivement, en Grèce, ça a été très important, puis le CPE, vous avez entendu parler. Je crois que c'est quand même... Alors, le rapport au mouvement altermondialiste, il y a un rapport, enfin nous on peut le construire ou le penser, qui est... C'est une lutte en partie contre les tendances ou les politiques de privatisation de l'éducation, en tout cas en Grèce et au Chili, encore plus clairement qu'en France. Et de ce point de vue-là, c'est une lutte de défense du service public, de fait, même à travers des revendications partielles. Mais surtout, je pense que le point commun qu'on ressentait moins en France, c'est déjà le cas en Italie, en Espagne, où il y avait déjà pas mal de travail, y compris des productions d'analyse des accords de Bologne, etc., sur les projets européens en matière d'université. Et le trait commun, c'est une lutte généralisée contre la précarisation. Bon, et ça, c'est très important, parce que ça, c'est une différence avec 68. C'est que le rapport avec le mouvement ouvrier, en 68, était un rapport... Je ne sais pas comment le qualifier, mais symbolique. C'était d'abord, le mouvement ouvrier avait du prestige à l'époque, et si vous voulez, puisque à force à parler de 68, les amphis de la Sorbonne, les AG à l'époque, arrivaient un cheminot de la gare de Lyon en bleu de travail, faisait une entrée dans l'amphi, c'était standing ovation, acclamation, vive le prolo, etc. Bon, c'est plus exactement le climat maintenant. Mais en revanche, il est évident que le thème de la précarité, puis là c'était très clair, le contrat nouvelle embauche ou le contrat première embauche, il y avait, c'était le même projet politique en réalité, donc l'identification au mouvement syndical, au monde du salariat, disons, était à peu près naturelle. Ce n'était pas une solidarité en extériorité, ça fait partie finalement... d'un même ensemble social. Alors, de ce point de vue-là, service public, question de la précarité, qui est une question majeure maintenant à l'échelle quasi planétaire, hein, évidemment, on peut dire que c'est une dimension, et ça peut devenir une dimension jeune, des forums, pas des forums, mais de la nébuleuse du mouvement altermondialiste, c'est vrai. Avec une question que je me pose, j'avoue que je n'ai pas la réponse, c'est le caractère intermittent de ces mouvements. Je suis dans une fac où il y a 27 000 étudiants inscrits, où il y a eu une grosse mobilisation sur le CPE, elle a été bloquée, fermée, etc. Et où, à la rentrée là, de octobre dernier, il n'y a plus rien. Il y a eu une réunion de défense des étudiants sans papier. Le collectif, hein, il y a 25 étudiants sur 27 000. Ça ne veut pas dire que les gens sont indifférents, mais on a l'impression de mobilisation par bouffée. Alors je ne sais pas, c'est de la culture du zapping, etc. Les gens ne sont pas indifférents. Ils font quelque chose à un moment donné, mais il n'y a pas d'inscription dans la durée et la continuité. Alors bon, moi, là, ça passerait sur le terrain philosophique. On est en 67, on est en 2007. À défaut de 2008, 2007, c'est l'anniversaire du Capital, première édition, 1867, et l'anniversaire de la Société du spectacle de Guy Debord. Et Debord disait, ça je crois que c'était bon, c'est que là où il n'y a pas de sens de l'historicité de l'histoire, il ne peut pas y avoir de pensée stratégique. Il y a une succession de présents qui se juxtaposent, mais il n'y a pas de lien et de projet possible. Et le fait de ne pas... Alors, la critique postmoderne de l'histoire, à mon avis, a fait des ravages, mais aussi le vécu. Les chômeurs de longue durée ne peuvent pas faire de projet de vie. Il y a eu pas d'enquête sociologique là-dessus. C'est la vie au jour le jour. Et les étudiants, pareil, qui ne peuvent pas faire de projet parce que l'emploi précaire, on est dans cet horizon-là. Je crois qu'il y a des vraies difficultés à reconstruire une force qui ne soit pas justement un moteur à explosion. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas mécano, peut-être qu'après tout on peut aller loin avec un moteur à explosion. Enfin, disons, qui marche de manière comme ça, par à-coup, et non pas hein, accumulant des forces et un projet.
Oui, en fait, vous avez peut-être complètement répondu, parce que ma question va tout à fait, m'apporte tout à fait sur ce que vous venez d'évoquer, c'est cette question de la... un sentiment d'une certaine retenue, voire d'un caractère un peu timoré, ces mouvements sociaux à empoigner la question politique. Et qui ne cesse, moi, de m'interpeller. Parce qu'il me semble qu'effectivement, si on ne transforme pas ces mouvements sociaux en termes de représentation politique et de pouvoir politique, etc., sauf qu'on arrive à des échouements réguliers, systématiques. On avance, puis on s'arrête. On avance, on s'arrête. Alors bon, vous avez donné quelques raisons de cela. Est-ce que vous voyez d'autres raisons en fait, à ce recul par rapport à ces questions de la prise de pouvoir politique ou d'entrer vraiment plus avant sur le terrain politique? Parce qu'il me semble qu'effectivement, sans la prise de pouvoir, sans entrer dans la question de la prise de pouvoir, on n'avancera pas.
Ça, je partage votre conviction là-dessus. Je pense que la question est incontournable. Bon, c'est pas... j'avais participé à un débat en 2002, je crois, justement, à un forum social à Porto Alegre avec Michael Hart, qui est le co-auteur de Negri. C'était essentiellement une assistance. Il y avait à peu près 800 milliers de personnes qui étaient principalement des Latinos et notamment des Argentins, en pleine crise argentine de 2001. Aller raconter à l'époque aux Argentins que la défense de la souveraineté nationale ne peut être que réactionnaire alors qu'ils essayaient de récupérer par rapport au pillage de l'Argentine, ou leur expliquer que changer le monde sans prendre le pouvoir, bon, c'était difficilement audible. Hein, bon, ça, et d'ailleurs, à défaut d'avoir répondu à la question, l'affaire Argentine est une leçon de choses. Parce que vu la force du mouvement social en 2001, les piqueteros, etc., etc., on a vu le slogan « tous, enfin, de fait, tous pourris, hein, tous dehors » à propos des hommes politiques, et puis, trois ans après, ils sont tous revenus. Le péronisme moribond est à nouveau là, bon, avec le même personnel politique. Or, Kirchner est moins pire que Menem, qui est un bandit, pur bandit, mais enfin, c'est revenu. Alors, l'explication du pourquoi me paraît compliquée. Je pense qu'il y a une crise de la politique démocratique, c'est-à-dire un doute sur la capacité même de la politique ou des politiques à... c'est un paradoxe. On a tellement développé l'idée que le marché, c'est naturel, qu'on ne peut rien faire contre les lois de l'économie, que si on fait ceci ou cela, les marchés financiers vont se fâcher. Et qui c'est les marchés financiers? Bon, on est en plein fétichisme. Le marché, bon, le marché... est un personnage qui a des humeurs, des mauvaises humeurs, etc. C'est absurde, c'est un rapport social, c'est nous qui le faisons, etc. Mais les dégâts là, des 20 années de réaction libérale font que ont installé l'idée d'une impuissance de la politique, déjà. Deuxièmement, s'ajoute à ça, consciemment ou inconsciemment, ben, l'idée que le pouvoir c'est dangereux et que tout ce qui s'est passé au XXe siècle inquiète là-dessus. Et puis troisièmement, mais tout ça se combine, bon, l'image de la politique que donnent les forces et les personnalités politiques dominantes. Le double discours, etc. C'est, la politique, c'est le pays du mensonge, c'est le pays de la corruption, ça dépend des latitudes et des pays, etc. Mais c'est quelque chose de pas net. Bon. Alors, la méfiance vis-à-vis de la politique, il y a peut-être encore d'autres raisons, mais elle est compréhensible. Pour autant, alors, les mêmes mouvements qui ne veulent pas rentrer sur ce terrain-là, Il y en a même à l'extrême qui théorise la non-participation électorale. C'est le cas de Badiou, mon collègue philosophe et toulousain en plus, bon, nous sommes pays, qui, bon, lui, non, bon, participer aux élections, c'est déjà cautionner l'institution, etc. Donc, bon, il pousse à bout. Enfin, bon, chez lui, c'est pas nouveau, mais. Et ça rencontre un certain écho, hein, chez les étudiants, c'est pas à l'échelle planétaire, mais enfin, c'est pas négligeable. Alors, paradoxalement, les mêmes mouvements sociaux qui essaient de cristalliser une division rigoureuse entre social et politique produisent de la politique sans arrêt. C'est une revendication politique, s'attaquer au problème du service public, au problème de la terre et des sans-terres, ou à la question des sans-papiers. La question des sans-papiers, c'est une redéfinition de la citoyenneté, des rapports entre citoyens et étrangers. C'est pas une peccadille. Bon. Donc ça produit de la politique, le mouvement des femmes produit de la politique. Mais en refusant de lui donner son expression, y compris sur terre-là. Or, je sais bien que c'est peut-être l'argument, en tout cas, avait du mal à passer, mais tant qu'on ne change pas les rapports de force à la fois sur le terrain social, qui est la base de tout, mais aussi sur le terrain des forces politiques, on va tourner en rond. Ce qu'on gagne un jour, on le perd le lendemain. On a un discours très radical comme Bertinotti à Florence en 2002, et après on est pieds et poings liés dans le gouvernement Prodi. Donc, mais là, ça, reconstruire une certaine idée de la politique, il faut s'armer de patience. Il faut faire la preuve que on est capable de tenir à ses convictions, on n'est pas abruti, on peut faire des compromis, etc., mais des compromis qui nous rapprochent de quelque chose et non pas qui nous en éloignent. On ne peut pas se dédire et se contredire, être pour des mesures sociales, etc., quand on est dans l'opposition, et faire le contraire dès qu'on arrive au gouvernement. Bon, etc. Alors, ça, c'est bon, je vois, enfin, l'expérience brésilienne est désastreuse. Est désastreuse.
Mais plus généralement, toute la gauche européenne est prise dans ses compromissions.
Enfin, toute la gauche.
Ah, la gauche, je veux dire.
Je suis de gauche, non. Je ne me sens pas compromis. Non, mais en tout cas, par ça.
C'est une gauche officielle.
Il faut dire que les tentations ont été faibles. Hein. On a été sollicité de participer à un gouvernement. Ça peut arriver. Bon, mais quand vous disiez la politique. L'affaire du Brésil, bon, moi j'ai suivi de près parce que je suis occupé du Brésil pendant de longues années, mais c'est quand même un désastre moral. Alors là, après, comme disqualification, discrédit de la politique, c'est pas seulement que les grands drapeaux du programme annoncé, réforme agraire, programme fin zéro, n'ont pas été réalisés, bon, ça serait déjà une forme de capitulation, mais en plus, ça c'est quand même une grande première dans le monde, c'est que le Parti des travailleurs, qui s'est construit sur une image morale d'un pays où la corruption est un sport national, arrive. D'habitude, on est habitué en Europe à ce que les bourgeois achètent les voix des syndicalistes. C'est en Allemagne qu'il y a un scandale en ce moment là, sur les patrons qui achètent des syndicalistes, etc., voire des parlementaires issus de partis ouvriers. Et là, au Brésil, on a eu l'inverse. Un parti des travailleurs qui achètent les parlementaires bourgeois pour faire leur politique. C'est une catastrophe morale. Alors, c'est sur des choses comme ça, je crois, bon, il y a une éthique de la politique, bon, c'est pas que du discours moral. On peut tenir si on a une conviction, si on a un fil conducteur, et qu'on commence pas à tanguer à la première difficulté. Ça rejoint ce que j'ai dit tout au début. C'est de prendre la mesure du terrain qu'il y a à reconquérir. Et bon, alors si on cherche à aller plus vite que la musique, bon, on va se précipiter sur la première illusion venue. Et en France, on a l'expérience, enfin je sais, oui, c'est que chaque désillusion, depuis 20 ans, a fait monter Le Pen de 3% en 1983 à 17% en 2002. Et à chaque fois, sur les plateaux télévisés les soirs d'élection, les dirigeants de gauche disaient « Ah, cette fois, on n'a pas droit à l'erreur. » Mais jusqu'à présent, ça a toujours recommencé. Et sans entrer dans le débat franco-français, bon, D'un côté, je souhaiterais, si le deuxième tour, comme prévu, c'est Ségolène et Sarkozy, que Sarkozy soit battu, mais avec quand même la forte probabilité que, après les deux mandats Mitterrand, après le quinquennat Jospin, on ait à nouveau un désastre politique et moral à la clé. En tout cas, il est largement annoncé dans les discours actuels.
Ce problème de la pérennité du mouvement internationaliste, je vois pas aussi le fait que le rapport de force aujourd'hui est beaucoup moins clair entre deux forces qui s'opposent. À l'époque, un ouvrier se battait contre le patron de son usine. Aujourd'hui, l'ouvrier se bat contre dans une économie mondialisée contre une entreprise qui est beaucoup plus vaste, avec peut-être des rapports à un pouvoir de force qui n'est pas géographiquement au même endroit, qui est peut-être dans un autre pays.
On peut prendre deux ou trois questions comme ça, peut-être il y a des recoupements.
Moi j'ai une ou deux questions autour des médias en fait. Est-ce que il y a eu pas mal d'espoir avec le développement de nouvelles technologies, en fait, Internet, ce genre de choses. On voit que ça aboutit à. Enfin, c'est dénaturé assez rapidement. Est-ce que vous pourrez nous dire deux mots en fait sur votre vision des. Est-ce que quelque chose est possible finalement tant qu'il y aura un déversement continuel finalement d'idéologie dominante à travers les médias en fait.
D'autres Non.
Les conditions de rapport de force et de lutte aujourd'hui d'un salarié, ouvrier ou employé d'une entreprise qui n'a plus en face le patron en haut de forme et à cigare, mais un conseil d'administration anonyme et un pouvoir qui se situe on ne sait plus très bien où, ça, c'est vrai, c'est une donnée. Et c'est une donnée qui normalement, logiquement, il n'y a pas de norme en la matière, mais appellerait une organisation, elle aussi transnationale, par branche, par firme, etc., qui est très en retard sur le niveau d'organisation et d'internationalisation du capital. Alors ça commence, il y a eu quelques initiatives d'entreprises qui existent sur plusieurs continents, donc des salariés, il y a eu des mouvements sociaux de cheminots à l'échelle européenne, etc., mais ça commence à peine. Si la question qui est posée derrière, c'est que la dépersonnalisation finalement de la figure du patron ou du collectif de direction d'une entreprise sur place, etc., la distance qui se passe, je crois que ça a un effet, hein. Pas seulement d'ailleurs dans les luttes d'entreprise, mais même dans la lutte politique. Il y a une difficulté à penser où se prennent les décisions, où se situe le pouvoir. Or, il n'a pas disparu au niveau de l'État. Il est dans l'entreprise, mais il est au niveau européen, il y a des trucs obscurs, la Commission européenne, enfin, il y a une dissémination des lieux de pouvoir, il y a des nœuds là-dedans, tous ne sont pas équivalents, mais ce n'est pas immédiatement perceptible. Ça c'est vrai, c'est une difficulté réelle. Un des problèmes à ça, bon évidemment, c'est l'organisation, l'internationalisation des mouvements sociaux, et l'autre problème c'est de savoir où se situent quand même les nœuds de pouvoir. C'est un débat, par exemple, avec les positions de Negri. Je crois que ce que j'évoquais tout à l'heure, les espaces sont de plus en plus combinés, imbriqués, etc. Mais le niveau national et le niveau des États tels qu'ils existent restent un niveau décisif. Dans l'Union européenne, la Commission de Bruxelles est toujours l'alibi dans les discours politiques, mais alors que les décisions sont ratifiées par les États. Et par rapport à ces problèmes-là, quand on vous dit qu'il va y avoir fuite de capitaux, il va y avoir des localisations, etc., s'il reste comme un instrument international, et là on sort des modèles économiques. Justement, j'évoquais les utopies économiques, gentilles, etc., c'est bien, mais à un moment donné, c'est un point de vue bureaucratique et totalitaire. Non, c'est une question démocratique. Si une entreprise ou un patron dit, si vous faites ça, si vous augmentez l'impôt sur la fortune ou sur les bénéfices, je fous le camp avec mon usine, je retire mes capitaux, c'est bien pire que de frauder une élection. Dans ce cas-là, il faut lui casser la tête.
Non mais, bon, disons les choses franchement, c'est plus un problème d'alternative, de logique économique, etc. C'est un problème de rapport de force. Alors après on dit, oui, mais si on fait ça, bon, on va être isolé dans le monde. Bon, ça, c'est pas sûr. Là, 68, pour le coup, a l'intérêt, c'est l'effet de contagion. Si, quelque part, on met en pratique une politique qui montre qu'il y a une volonté de tracer des pistes, d'initier un mouvement alternatif, il sera pas, il sera peut-être isolé du point de vue des États d'un premier temps, il ne sera pas si isolé que ça du point de vue des pauvres, des travailleurs, etc. Et l'Amérique latine, c'est ce qui se passe. Bien sûr, il y a un mécontentement généralisé face aux politiques libérales, mais je doute qu'il y ait eu le mouvement actuel en Bolivie ou en Équateur, c'est le cas du Venezuela. Les effets de contagion, ça existe, hein, à ce niveau-là. Bon, alors, moi, c'est vraiment un problème, là, pour le coup, il y a des difficultés, hein, ce que vous signalez, mais il y en a bien d'autres, enfin, entre autres, l'atomisation. Ça, j'avoue que l'atomisation du collectif de travail. Un des paris de Marx, pour dire, sur l'émancipation, c'est un pari, moi j'appelle ça un pari sociologique. Il y a une contradiction chez Marx. Comment des travailleurs qui sont, il le répète à longueur de page dans le Capital, mutilés physiquement et psychologiquement ou mentalement par le travail, peuvent avoir les ressources et l'énergie de construire un monde nouveau? Bon, alors la réponse, plus ou moins en simplifiant, c'est, mais le capital se concentre, donc il concentre les travailleurs concentrés s'organisant, ils prennent conscience, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé partiellement comme ça. Hein, l'industrialisation de la fin du 19e siècle a produit un mouvement ouvrier massif et organisé, les grands syndicats, etc. Mais toutes les politiques libérales depuis 20 ans visent à déconstruire le collectif de travail, l'individualisation salariale, des horaires, la flexibilité, le télétravail, etc. C'est l'émiettement du travail, donc une difficulté nouvelle pour s'organiser. Pas seulement ça, hein, mais la privatisation des loisirs. Je ne vais pas faire la dénonciation concon, la télé, le machin, les pantoufles, le cocooning, etc. En fait, ça existe. Moi, j'ai grandi dans un bistrot où il y avait les réunions de l'Union des femmes françaises, la cellule du PC, qui était un lieu social, mais c'est un lieu d'organisation, un bistrot. C'est important, le bistrot, dans l'histoire du mouvement ouvrier, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est quand même important. Non, mais la privatisation du loisir, en général, est aussi une forme de désorganisation. Alors, c'est pas à sens unique. En même temps, il y a du besoin, dans le jargon sociologique, de lien social. Les bistrots à Paris sont ressuscités, en banlieue aussi. Il y a les cafés psycho, les cafés philo, les cafés politiques, les cafés littéraires, etc. Bon, ça ne compense pas les pertes des syndicats, par ailleurs. Hein. Enfin, bon, c'est déjà ça. Donc les difficultés sont majeures. Hein. C'est pas seulement le poids des défaites, mais c'est aussi... Enfin, si on dit que c'est une lutte, l'adversaire n'est pas immobile. Et toutes les mesures prises contre le droit du travail ces 20 dernières années ont des effets économiques, évidemment, mais aussi des organisations sociales, de démantèlement des solidarités, d'ailleurs de mise en concurrence, travailleurs les uns avec les autres. Pourquoi Le Pen aujourd'hui, en termes électoraux, est le premier parti ouvrier de France, enfin en tout cas aux dernières élections, j'espère que ce ne sera pas le cas aux prochaines, ben, c'est le cas. Et pas seulement chez l'électorat ouvrier blanc, français de souche, comme on dit maintenant, y compris dans l'immigration. Paradoxalement, mais c'est malheureusement le cas. Alors, les médias et les nouvelles technologies, mais c'est toujours contradictoire. Toute innovation technique qui est une économie de temps ou une facilitation de la communication et de l'échange est à la fois potentiellement un moyen de progrès considérable, d'élévation culturelle, de débureaucratisation de la vie politique. Moi, je ne suis pas un fan des utopies communicationnelles. Enfin, que ce soit les téléconférences téléphoniques, que ce soit Internet aujourd'hui, si on prend déjà dans les grèves des cheminots de 95, quand je veux dire phénomène de débureaucratisation, c'est qu'avant, l'information se centralisait et passait par une direction syndicale. Aujourd'hui, vous avez des coordinations, des collectifs, et l'information circule transversalement en permanence. on sait à la minute si le dépôt de cheminots de Avignon a repris le travail ou pas. Et on n'attend pas les informations parfois pipées que donne le secrétaire général du syndicat. Internet sur la circulation des idées, alors ça peut d'ailleurs pêcher après par... Il y a des tas d'inconvénients, hein, par saturation ou autre. Dans la déontologie du débat, par exemple, je trouve que c'est quelque chose de redoutable. Les réponses du tac au tac par email, bon, parfois ça court-circuite la réflexion. On s'emballe, on se traite de Toulouse, comme dit Nougaro, on se traite de con en fait qu'on se traite, après on le regrette, mais en fait c'est trop tard, le mail est parti. Quand il fallait prendre la plume pour répondre, il y avait une lenteur de l'écriture qui était un temps de réflexion. Là, les humeurs partent à vif, et d'ailleurs tous les sites comme ça posent un problème de gestion, de filtrage, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on n'envoie pas, etc. Pire, à mon avis, et c'est un problème majeur, là, dans la petite expérience préélectorale en France, c'est un outil démocratique. Alors, la démocratie participative version Ségolène Royal, qui n'est pas exactement non plus Porto Alegre, bon, mais bon, on consulte. Mais ce n'est pas un débat démocratique. C'est-à-dire, bon, envoyez vos idées. Bon, mais comme il n'y a pas d'espace de discussion ni de décision, envoyez vos idées. Et puis voilà, et puis on en fera ce qu'on veut. Non mais, l'affaire du Parti Socialiste, là, les adhérents à 20 euros, je ne sais pas si vous avez, pour voter à la primaire interne au PS sur les candidats, il suffisait d'envoyer courrier électronique 20 euros sur un compte électronique pour avoir le droit de vote. Mais ça veut dire que les gens adhèrent à un parti, non pas pour militer, mais pour voter. Pour moi, c'est une dégradation de la vie démocratique considérable. C'est l'opinion et le sondage contre toute organisation collective avec ses règles démocratiques. On critique beaucoup les partis parce que ça a l'air bureaucratique, mais le fait de créer des conditions relativement égalitaires de débat entre des adhérents volontaires, des militants volontaires, etc., c'est beaucoup plus démocratique malgré les inconvénients, je vous jure qu'il y en a, que de laisser coopter les porte-paroles et les dirigeants par les plateaux télé. Ils fabriquent les porte-paroles. Celui-là, il passe bien, il a une bonne gueule, il prend bien la lumière, et puis il a un accent sympa. Bon. Comme on dit dans le jargon des directions de médias, c'est un bon client. Bon. Alors voilà, vous êtes un bon client, vous risquez de transformer par TF1 ou autre, tout d'un coup, en figure politique, qui échappe à tout contrôle. Ben, on a eu ça, la floraison de candidatures ou de pré-candidatures en France, c'est bien d'ailleurs, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de critères pour être candidat. Enfin, le fait que tout le monde se réveille le matin, se regarde dans la glace, se dit la bonne nuit, et se dit je ferais bien bon ou une bonne présidente de la République, sans mandat, sans programme, etc., c'est pas une avancée démocratique. C'est pas une avancée démocratique, mais là, il y a un effet pervers. La démocratie, c'est pas uniquement... Alors, Internet peut en être un élément, mais ça ne remplace pas les réunions, les explications, les échanges d'arguments, ça prend du temps, c'est chiant, etc. Bon, mais Rousseau ne concevait que le peuple existe là où il peut s'assembler. C'était un peu extrémiste, mais bon, rien ne remplace le rassemblement, c'est une autre composante de la démocratie. Alors maintenant, est-ce que sur les médias et les médias ne fabriquent pas l'idéologie dominante, ils peuvent la relayer, enfin ils la relaient d'ailleurs considérablement, hein, le problème va au-delà des médias, c'est-à-dire que il y a un peu la tentation chez certains, dans les mouvements de critique des médias, de croire, c'est la théorie du complot de la manipulation. Alors, il y a une puissance médiatique, on a eu un débat dans l'avant-dernier contre-temps, contradictoire là-dessus, Chomsky est un peu là-dedans. Et aux États-Unis, ça se comprend. Vu la puissance financière, le degré de contrôle et de concentration des médias, de presse, audiovisuelle, etc., mais c'est vrai en France de plus en plus. Enfin, toute la presse et l'édition est rachetée. L'édition, c'est Hachette et Vivendi maintenant. Il y a quelques petits éditeurs qui...
Donc,
oui, donc C'est un vrai problème. Mais, alors, je pense que ce n'est pas dénoncer les mécanismes de propriété, de choix des interlocuteurs, des présentateurs télé, etc. C'est important. Il serait illusoire de croire que tout le mal vient de là. Parce que ce qui manque, je crois, chez Chomsky, c'est la notion d'idéologie. Mais l'idéologie, c'est pas du bourrage de crâne. Ça peut l'être aussi, mais c'est, chez Marx, plus fondamentalement, un effet, c'est des illusions, des abstractions réelles. C'est un effet du fétichisme de la marchandise. C'est un effet de la perte de contrôle du travailleur sur son outil et le produit de son travail. C'est le fait que, justement, que le marché nous apparaisse comme une puissance autonome et non pas comme un rapport social que nous construisons tous les jours. Bon, la mystification fondamentale vient de là. C'est que le rapport social lui-même est mystificateur. C'est qu'on a des miracles. Comment faire? Pourquoi l'argent paraît miraculeux? Alors, tantôt pour le vénérer, tantôt pour le dénoncer, mais quand les fonds de pension vous demandent 15% de retour sur investissement pour une croissance annuelle moyenne de 3%, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. C'est la reproduction des pères, etc. C'est l'argent qui fait de l'argent. Voilà, mystère et boule de gomme. L'argent est magique, il fait de l'argent. On n'imagine même plus que finalement il faut passer par la production quand même pour faire de l'argent et de la plus-value, que l'argent n'est qu'une des formes du capital. Donc on est là-dessus, Marx est formidable, on est dans un monde magique et religieux. C'est plus les idoles de l'Antiquité, c'est plus les icônes du catholicisme, etc., mais c'est le marché, l'argent, les médias, etc. Donc le problème des médias du point de vue de leur rôle est à resituer dans l'ensemble des mécanismes de l'idéologie dominante. Par ailleurs, il y a un vrai problème de bataille sur la propriété, c'est-à-dire là aussi créer, dans la mesure où les médias contribuent, cependant, il ne faut pas faire une critique non plus bornée, les médias contribuent à créer des espaces publics. La presse a créé l'espace public démocratique à la veille de la Révolution française, enfin, en a été un élément, après les salons. Internet est un élément d'émergence encore très faible d'un espace public européen ou mondial. Le fait qu'on puisse discuter quotidiennement avec ou des collègues professionnellement ou des mouvements aux antipodes, etc. Mais en revanche, on aura bientôt le problème des droits sur Internet, la concentration de la propriété des médias est un vrai problème, enfin la privatisation maintenant faite sous la gauche en France des chaînes de télévision. Aujourd'hui, dans les médias, on trouve les fabricants d'armes et de béton, Bouygues et Lagardère. Est-ce que c'est normal que Bouygues et Lagardère fabriquent l'opinion? Non. L'idée d'un service public de communication et d'information, ça fait partie des batailles. Donc il y a le front idéologique, il y a le front économique sur tout ça. Sur l'édition aujourd'hui, puisque... c'est pas le problème le plus important, mais en travaillant avec des maisons d'édition, le problème c'est la distribution. Et vous savez, vous avez des représentants qui vont présenter aux libraires les bouquins annoncés, etc. Les représentants de la maison du Seuil, il y a plusieurs grands distributeurs, ont dans leur tournée, qui doit être tous les deux mois, 250 bouquins à présenter. Et on leur demande des résultats financiers, de même d'ailleurs qu'aux éditeurs. Lagardère, qui perd de l'argent avec ABS, demande aux éditions Hachette de compenser les pertes d'ABS. Donc, il demande des résultats de 15% de bénéfices dans l'édition. Bon. Ou alors, ça transforme la logique d'édition. Vous allez faire un matraquage sur un bouquin, Les Mémoires de Sarkozy, dont vous espérez vendre 200 000 exemplaires, mais les essais, les travaux de longue durée de recherche, etc., sont réduits à la portion congrue, ou sont du mécénat. Et les représentants eux-mêmes, on leur vend 200 bouquins. Si vous devez faire là-dessus un chiffre de temps, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a jamais le temps de présenter à un libraire 200 livres. D'abord, il faudrait les connaître, ce qu'il y a dedans. Donc, ils vont au plus pressé, ils le disent eux-mêmes, hein, pas pour ça, pour s'en plaindre plutôt. Mais ils disent, on a On a trois best-sellers possibles dans les deux sens. Voilà, on va taper là-dessus. Et on fait des grandes piles à l'entrée des supermarchés, etc. Mais donc, voilà, cette logique-là, elle va de l'édition à l'industrie du cinéma, et puis évidemment à tout ce qui est la presse ou les médias d'information.
Voilà, je crois qu'on va, pour des raisons d'heure, s'arrêter là. Je dis pour des raisons d'heure, je ne sais pas quelle heure il est.
5h15. Les Suisses n'ont pas l'heure, ça me tue.
Mais quand même, tu vas l'intérioriser. Donc, merci à tout le monde, et puis merci à Daniel surtout.
Sans engagement, mais il y a quelques bulletins d'informations sur contretemps. Enfin, je sais pas, là aussi, sa bonne édition, c'est cher, en tout cas pour les Français.